Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et du 299e numéro de Métropolez-vous pour une nouvelle émission consacrée à ce qui se passe dans la métropole toulousaine. Il y a un sujet que nous avons parfois abordé de façon marginale en évoquant certains projets et leurs enjeux environnementaux. C'est la situation de ce qu'on appelle la biodiversité sur le territoire métropolitain. Ce territoire n'est pas qu'urbain, comme vous le savez, il est aussi périurbain et même, dans certaines communes, il possède de vrais espaces naturels et sauvages. Quoi qu'il en soit, au sein de tous les espaces de ce territoire, vit et se développe une faune et une flore que nous ne connaissons pour la plupart d'entre nous que partiellement, sans en soupçonner toute la diversité et la richesse. J'ai pensé qu'à une époque où la nature et sa préservation sont au centre des préoccupations de nombreux citoyens, il fallait faire un état des lieux de la biodiversité dans la métropole toulousaine. Quelles espèces y rencontre-t-on? Comment leur nombre et leur population évoluent-ils? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission dédiée aujourd'hui à la flore. Pour faire cet état des lieux de la flore dans la métropole toulousaine, j'ai invité Boris Pressec, botaniste et responsable des collections botaniques au Muséum de Toulouse. Bonjour monsieur et tout d'abord merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour, oui avec plaisir.
Comme vous participez pour la première fois à cette émission, pour que nos auditeurs fassent un peu connaissance avec vous et votre métier, je vais vous demander d'abord de nous expliquer en quoi il consiste, qu'est-ce que c'est un botaniste finalement, et quelles sont vos missions au muséum.
Alors un botaniste, c'est une personne qui a une connaissance de la flore, donc des espèces végétales qui habitent un territoire, on va dire. Et puis le métier de botaniste, c'est un métier qui est essentiellement tourné vers le terrain, donc vers la connaissance de la flore, des espèces végétales qu'on va trouver, par exemple ici sur la commune de Toulouse. Et au sein du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, moi je m'occupe des collections botaniques, ça veut dire que je gère des collections essentiellement de plantes mortes, contenues dans des herbiers, qui ont été réalisées depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et qui sont justement des herbiers qui représentent très fréquemment la flore d'une région. La gestion de ces herbiers, qu'est-ce que ça veut dire gérer des herbiers? Ça veut dire les connaître, les inventorier, les faire connaître, laisser la possibilité que ces herbiers soient consultés pour des études scientifiques, des études aussi comparatives, qui permettent par exemple de voir si, vous en parliez, si la flore a évolué ou non en quelques siècles, en quelques décennies. Et puis les présenter au public aussi, puisque le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, il a un rôle pédagogique tourné vers le public qui est de présenter ses collections naturalistes.
Concernant ce mot « flore », ce qu'il recouvre, ça peut sembler évident au premier abord, mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce qu'on peut considérer que cela recouvre tout ce qui relève du végétal de manière générale, ou est-ce qu'il faut préciser le végétal sur un territoire donné?
Oui, en général, quand on parle par exemple de flore d'une région, on parle de toutes les espèces végétales qui habitent cette région, qui habitent naturellement cette région. Parce qu'on va distinguer aussi la flore sauvage de la flore domestique. Et la flore sauvage, ce sont des espèces de plantes qui sont spontanées sur le territoire. Et quand on parle d'espèces de plantes, on comprend aussi, alors très fréquemment dans l'esprit du grand public, les plantes se réduisent aux plantes à fleurs, donc toutes les plantes qui vont fleurir et puis être assez visibles par leur floraison. Mais la flore d'une région, ça comprend, outre les plantes à fleurs, toutes les plantes qui font de la photosynthèse. Donc les fougères, les mousses, mais aussi les algues. Et puis d'autres petites plantes ou des plantes qui sont liées symbiotiques avec d'autres organismes comme les champignons, ce sont les lichens par exemple. Donc une flore, c'est effectivement, ce sont les espèces végétales qui habitent une région et cette région elle peut être d'une envergure, d'une superficie différente. On peut parler de la flore de la commune de Toulouse, la flore de la région Midi-Pyrénées ou Occitanie, la flore des Pyrénées et ça comprend toutes les espèces de plantes de ces régions.
En quelle grande famille d'espèces végétales se décompose la flore?
Si on parle de la flore de France, par exemple, pour parler d'un territoire assez grand, c'est à peu près 6000 espèces de plantes. Donc on a 6000 espèces de plantes à fleurs. Ça, on va parler des plantes à fleurs, surtout. Ces 6000 espèces de plantes à fleurs, elles vont se répartir dans un certain nombre de familles. Alors, je ne pourrais pas vous donner le nombre exact de familles de plantes qu'il y a sur le territoire français, mais il y a quand même des familles qui sont majoritaires. Alors, les familles, ça regroupe des cortèges de plantes qui sont apparentées les unes aux autres. Et on a des familles de plantes qui sont très fréquentes, très bien connues, par exemple les graminées, donc tout ce qu'on appelle les herbes, qui sont la famille des poacées. Dans les familles de plantes bien connues aussi, on va avoir la famille de la marguerite, la pâquerette, du pissenlit, qui sont les astéracées. On va avoir la famille du romarin, de la sauge, de l'origan, qui sont les lamiacées. Voilà, là, on est sur des familles qui sont avec un grand nombre d'espèces très importantes et qu'on va côtoyer tous les jours dans nos déplacements, que ce soit parmi les espèces sauvages ou les espèces domestiques. Après, il y a tout un tas de familles qu'on connaît, mais que par quelques représentants. On pourrait parler des cucurbitacées, par exemple. On peut parler aussi des papaveracées avec le coquelicot. Voilà, bon, il y a beaucoup, beaucoup de familles. Hein. Mais on va dire, voilà, les majoritaires, les principales, hein, on reste sur les astéracées, les lamiacées, les poacées. Hein.
Et est-ce qu'on peut faire aussi deux grandes familles qui seraient les plantes qui se développent sur des espaces terrestres et les plantes qui se développent sur des espaces aquatiques, plans d'eau, cours d'eau, mares, marais?
Oui, alors en fait, il se trouve que dans les plans d'eau, on a une famille, enfin, quelques familles de plantes qui se sont développées et qui se sont tellement adaptées au milieu aquatique que ce sont devenues des familles qu'on ne va pas retrouver sur les milieux terrestres. Bon, je pense par exemple aux potamogétonacées, dont on voit des herbiers à Toulouse sur le plan d'eau quand il est en étiage en été, de grands herbiers sous le pont neuf. On va avoir aussi les hydrocaritacées, et notamment peut-être vous connaissez l'élodée. Les
oui.
Élodées, hein,
ah,
ce
oui.
sont des plantes aquatiques qui sont très célèbres. Et donc effectivement, on a des familles de plantes qui sont inféodées au milieu aquatique, en tout cas au milieu aquatique pur, hein, puisqu'après on a des plantes amphibies qu'on va retrouver sur les berges, qui sont capables d'être inondées pendant les périodes de crue, et puis qui, en temps normal, se retrouvent sur ces ripisylves ou sur les bois alluviaux.
La ripisylve, c'est vraiment ce qu'il y a à l'abord immédiat des cours d'eau.
Oui.
Quel type d'espace où se développe la flore va-t-on trouver dans la métropole toulousaine? Alors évidemment, il y a la ville de Toulouse, mais il y a toutes les communes autour, dont certaines sont déjà à la campagne.
Ah oui, complètement. Alors surtout depuis qu'on est en métropole, maintenant, la métropole toulousaine comprend un petit peu tous les types de milieux, y compris des milieux qui sont dans un fonctionnement assez sauvage, notamment des bois, des forêts. Bon, je pense à la forêt de Boucone, hein, par exemple,
sûr,
hein,
oui.
qui est boisée depuis très très longtemps. Et donc il y a un milieu qui, même s'il est très utilisé, a un fonctionnement semi-sauvage ou semi-naturel. Mais ce qui va surtout caractériser les milieux de la métropole, ce sont des milieux qui sont urbanisés et qui vont ménager des espaces un petit peu inattendu. Alors, on va avoir les milieux justement aquatiques, amphibies, parce qu'on a beaucoup de cours d'eau et de plans d'eau. Hein. Je pense à la Ramée, à Sesquière, puis après la Garonne, le Touche, l'Erse, le canal du Midi. Donc, on a ces milieux aquatiques qui sont bien représentés. Ensuite, on a des milieux, bien sûr, les villes aménagent ce qu'on appelle des friches, donc des zones un petit peu oubliées, délaissées, où la nature va être en expansion, dans un fonctionnement, une dynamique exubérante, et puis d'un coup, cette friche se réduit parce qu'il y a un projet immobilier ou d'infrastructure qui se fait dessus, et puis donc elle est arrêtée dans son fonctionnement. Mais sinon, on a des friches qui deviendraient des forêts, et certains espaces qui sans friche redeviennent des forêts. Donc on a des petits bois isolés comme ça, notamment en bord de l'Erse, hein, dans la métropole. Et puis on a des milieux qui sont un petit peu apparentés aux milieux de type méditerranéen ou méridionaux, très minéraux. Ce sont les trottoirs, les murs, les toitures qui sont des milieux en fait qui certains vont être oubliés, délaissés et où les plantes vont se loger dans toutes les fissures, les interstices et puis vont pouvoir occuper en attente de réfection de la chaussée, de réfection d'une toiture, des milieux qu'on peut assimiler à des milieux méditerranéens, des milieux ou des milieux montagnards, des milieux de falaises, des milieux de par exemple de crues, d'avalanches. Ce sont des milieux qu'on peut assimiler à des milieux un petit peu pionniers. Hein. Ce sont des milieux à conquérir, c'est-à-dire que la végétation va se développer sur des endroits qui sont nus, qui sont très minéralisés, que notre espèce a tendance à faire de plus en plus. Et la végétation, son but dans son expansion, c'est de recouvrir ces milieux minéralisés. Et la couverture, la recouverture de ces milieux fait appel à tout un cortège d'espèces qu'on appelle des pionnières. Ce qui fait que ces espèces végétales qu'on va trouver dans le milieu urbain, ce sont des espèces végétales qui sont souvent assez tenaces, qui ont des moyennes de multiplication avec une production de beaucoup, beaucoup de graines, qui sont facilement emportées, qui vont résister à tout, à l'arrachement, au piétinement, et qui ont souvent des vies assez éphémères, hein, avec des durées de vie de 1, 2 ou quelques années maximum, avant de laisser la place à d'autres espèces.
Combien y a-t-il d'espèces végétales inventoriées dans la métropole toulousaine?
Il y a plus de 900 espèces végétales sauvages sur la métropole. Alors, pardon, sur la commune de Toulouse. Sur la métropole, on sera certainement au-dessus de 1100 espèces, puisque maintenant, dans la métropole, on a la forêt de Boucone, justement, une partie de la forêt.
Et quelles sont les plus représentées, les plus nombreuses parmi ces espèces végétales? On va parler de famille, peut-être, là, justement.
Ah, famille, c'est difficile de les cantonner à des familles, parce que, justement, au niveau des familles, on est assez diversifié, hein, quand même. Hein, donc, Quelles sont les espèces végétales les plus représentées? Alors la plus représentée peut-être dans Toulouse et dans la plupart des villes qui constituent la métropole, c'est la pariétaire de Judée. Pariétaire de Judée, c'est une petite plante buissonnante qui appartient à la famille de l'ortie qu'on va retrouver partout sur les trottoirs, les murs, les toitures. Donc ça, c'est une espèce qui est très très présente, qui est vraiment emblématique de, en plus des vieux murs de briques. Hein, donc ici, à Toulouse, ils sont bien représentés. On va avoir aussi en cette saison-là, par exemple, on est en fin d'hiver, on va dire, et on a le nombril de Vénus, qui est une magnifique plante, très présente sur les murs aussi, qui est une annuelle, et qui fait des feuilles en forme d'assiette ou d'écuelle, très très jolie, hein, ou de parabole même. On a vraiment l'impression que de petits buissons de parabole sur les murs. Et puis qui a une existence très éphémère. Là, elle est très présente. Et puis au mois d'avril-mai, elle va commencer à dégénérer et passer l'été sous forme de graines. Donc voilà, pariétaire de Judée, le nombril de Vénus. On va avoir des plantes. Alors sur les trottoirs, par exemple, on va avoir des laiterons, des laitues, de la renouée des oiseaux, du plantain. Alors beaucoup de plantes qui sont très communes, y compris dans l'esprit des gens. Hein, mais ce n'est pas un hasard parce que ces plantes, ce sont effectivement les plus communes dans les endroits où l'humain habite. Mais si on va, par exemple, à Pêche David, ou sur des berges de Garonne, comme au Ramier ou comme aux Amidoniers, là, on va trouver des espèces très communes aussi, mais beaucoup moins présentes dans notre imaginaire, comme des érables, donc l'érable champêtre, l'aulne, peuplier noir, peuplier blanc, voilà des choses très communes en milieu urbain, parce qu'à croissance rapide, capable de supporter pas mal de choses au niveau de nos pollutions, au niveau de nos habitudes, un petit peu de taille, par exemple. Hein. Alors, dans ces espèces communes, on a des espèces locales et puis des espèces exotiques. Et en milieu urbain, on va avoir ces deux groupes, ces deux catégories d'espèces qui sont bien représentées. Et il serait faux de croire, par exemple, que le milieu urbain est constitué essentiellement d'espèces exotiques, puisqu'on a quand même la majorité des espèces sont des espèces locales, bien implantées sur le territoire et bien adaptées au territoire.
Alors, je vous ai parlé des plus nombreuses et des plus représentées, mais quelles sont les plus rares ou peut-être même aussi les plus insolites qu'on peut trouver dans nos contrées, hein, de la métropole toulousaine, celles où, a priori, qui ne devraient pas être ici?
Les espèces les plus rares, ce sont souvent celles qui ont les besoins écologiques les plus importants. Parce que dans une ville comme Toulouse, qui a été créée il y a longtemps et qui habite depuis longtemps, les sols ont tous été chamboulés. Et certaines espèces végétales ont besoin d'une grande tranquillité au niveau du sol, notamment au niveau des horizons du sol, de l'utilisation du sol, etc., pour pouvoir s'implanter. Et du coup, ces espèces-là, qui demandent cette tranquillité, ce non-dérangement, elles sont devenues très très rares au niveau de Toulouse. Par exemple, à la jacinthe de Rome, qui est devenue une plante assez rare, mais qui est quand même présente sur les prairies dans les pelouses du bord de l'Erse, par exemple. Je pense aussi à la fritillaire pentade qu'on va trouver au bord du Touche, qui a besoin aussi de petits bois alluviaux, c'est-à-dire des bois où les rivières vont s'épancher lors des crues. Voilà, donc fritillaire pentade, jacinthe de Rome, les bulbeuses en général, hein, les bulbeuses, c'est-à-dire les plantes qui s'installent dans des sols sous forme de, et qui sont vivaces sous forme de bulbes ou de tubercules, comme les orchidées, sont des espèces qui demandent beaucoup plus de temps pour s'installer, et si le milieu est dérangé en permanence, elles ne peuvent pas s'installer. Voilà, donc ça, ce sont des espèces qui deviennent un petit peu rares. Les espèces qui deviennent aussi un peu rares et de plus en plus rares, ce sont celles qui sont liées à une agriculture urbaine. Il n'y a quasiment plus d'agriculture urbaine aujourd'hui. Et il y a un siècle, il y avait encore dans Toulouse des moissons, des vergers, des maraîchers qui, par leur activité, ménageaient des espaces, des petits délaissés qui permettaient à une flore de plantes liées à ces activités, qu'on appelle notamment des messicoles, des plantes messicoles, d'être présentes. Je pense par exemple à la nigelle de France, au buplèvre à feuilles rondes, à l'agnelle des blés, qui étaient présents sur Toulouse et puis qui ont disparu de Toulouse parce que, bien sûr, ces activités agricoles ont disparu. Dans les espèces originales, alors les espèces originales, il y a beaucoup d'espèces originales, beaucoup d'espèces originales. Je pense à une espèce en particulier, moi, que j'adore, qui s'appelle le concombre d'âne. C'est une petite plante rampante qui appartient à la famille du concombre, hein, des cucurbitacées, qui est bien présente à Montaudran et le long des voies ferrées toulousaines parce que cette petite plante, elle a la particularité de produire un fruit de la taille d'un cornichon. Et ce fruit, à maturité, il est sous pression. Et il suffit d'un petit tremblement du sol, d'un petit mouvement, il éclate et il propulse la pulpe avec les graines. Et en fait, il est très très lié aux voies ferrées. Pourquoi ? Parce qu'en été, quand des fruits sont en maturité, il suffit du passage d'un train pour faire bouger le ballast et les fruits propulsent la pulpe et les graines sur le train. Et cette pulpe, donc, elle colle au wagon et en séchant, elle va libérer les graines. Ce qui fait qu'on va retrouver ce concombre d'âne tout le long des voies ferrées.
Donc ça se répand tout le long des voies ferrées.
Voilà. Et donc, c'est une espèce quand même assez originale. Et une autre espèce qui est très originale, un groupe d'espèces qui sont très originales, ce sont les géraniums et les érodiums. Les érodiums, ce qu'on appelle les becs de grue, qui ont une graine. Donc, ce sont des plantes qu'on va trouver dans les pelouses, sur les friches, dans les endroits un petit peu dénudés aussi, hein, au pied des arbres par exemple. Et donc, les becs de grue, ils ont une graine qui est en forme de tire-bouchon. Et cette graine tombe au pied de la plante. Et donc, cette forme de tire-bouchon, la graine est pointue avec un tire-bouchon qui la surplombe. Et puis, un grand bras de levier, comme un bras de tarière en fait. Et ce bras de levier, en étant animé de mouvements dus à l'humidité de l'air, va appuyer sur la végétation environnante pour planter la graine, plutôt ancrer la graine dans le sol. Alors quand on voit ça, quand on montre ça, c'est vrai que ça paraît extraordinaire.
Comment évolue le nombre d'espèces végétales dans la métropole toulousaine depuis 20 ou 30 ans? Est-ce qu'il y a des espèces qui apparaissent? Est-ce qu'il y en a qui disparaissent ou qui se raréfient?
Bon, il n'y a pas vraiment d'études sur la métropole. C'est quelque chose qu'on voudrait faire, mais bon, il faut du temps pour le faire. Il faut le mettre
en
place.
Moyens,
c'est,
oui.
C'est pas évident. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut dire qu'il y a plus d'espèces aujourd'hui en sauvage qu'il y a 20 ou 30 ans. Alors, plus d'espèces, on n'est pas sur des chiffres, hein, on n'a pas doublé le nombre d'espèces. Mais il y a des espèces qui se sont rajoutées, et je pense notamment à des espèces méridionales qui, auparavant, étaient présentes dans nos parcs et jardins sous forme de plantes d'ornement, hein, et qui, aujourd'hui, se ressèment de plus en plus sur les trottoirs, dans les friches ou dans les espaces un petit peu délaissés. Par exemple, dans les années 80-90, on a beaucoup planté des lauriers roses dans les jardins. Le laurier rose, c'est une espèce méditerranéenne. Et ces lauriers roses, maintenant, alors qu'ils ne s'étaient pas du tout ressemés, on retrouve des plantules dans les caniveaux, en bord du canal du Midi. Et donc, on a une plante qui devient petit à petit spontanée et donc qui se naturalise dans la région. Et c'est le cas de tout un tas d'autres espèces, hein, méridionales. Je pense par exemple aussi au chêne vert. Le chêne vert, c'est un arbre qui a été très planté comme ornement dans les parcs jardins, autour des églises aussi. Et puis ce chêne vert, alors qu'il ne se ressemait pas, devient aujourd'hui un des arbres qui se ressème le plus dans Toulouse. Et à la place d'autres espèces, alors pas à la place, mais il vient en complément d'autres espèces plus locales, hein, comme le chêne pubescent ou le chêne pédonculé.
Alors je vais vous poser une question qui va peut-être paraître paradoxale à certains de nos auditeurs. Est-ce que certaines espèces sont apparues ou ont proliféré en raison de la pollution, de l'utilisation massive d'engrais et de produits pour l'agriculture? Ou est-ce qu'à contrario, il y en a qui ont, certaines espèces ont disparu à cause de ça?
Sur Toulouse, on ne peut pas dire qu'il y ait d'espèces apparues ou disparues à cause de la pollution. Alors si on passe aux pollutions agricoles par exemple, ou aux pollutions, même aux pollutions urbaines, il y a un type de pollution qu'on oublie souvent, c'est la pollution des trottoirs et des espaces des délaissés, des friches par les chiens. Voilà, c'est-à-dire que les chiens, il y a une grosse population de chiens et de chats à Toulouse, hein, et donc on a un enrichissement des sols en azote, beaucoup d'azote, hein, d'urée qui arrive dans les sols, et donc il y a une sélection des espèces qui vont pousser sur ces espaces parce qu'il y a beaucoup d'azote, voire trop d'azote. Donc les espèces qui ont été favorisées, oui, mais alors, en fait on va retrouver de l'ortie, du sureau noir, du chénopode, les plantains, le pissenlit, voilà, toutes ces espèces, on les appelle des nitrophiles. Donc elles adorent.
Nitrates.
Voilà, elles tolèrent, plutôt qu'elles adorent, elles tolèrent des taux élevés de nitrate d'urée dans le sol, et donc elles vont se développer. Et elles ont un rôle, en fait, dans la nature. Ce rôle, il est d'épurer le sol de ces nitrates pour que d'autres espèces qui, elles, ne sont pas tolérantes à ces taux élevés de nitrate, d'azote, pardon, puissent se développer. Donc ça, ce sont les espèces, voilà, qui sont favorisées par ce type de pollution un petit peu originale. Mais bon, vous savez, depuis 2017-2018, il n'y a plus d'utilisation de produits phytosanitaires. Il n'y a pas eu de changement de la flore, parce que le changement qui s'est fait dans la flore, c'est plutôt, lors de l'abandon des traitements phytosanitaires des trottoirs, c'est plutôt un changement de quantité de flore. C'est-à-dire qu'on a des endroits qui étaient délaissés, un petit peu délaissés, qui sont devenus de plus en plus importants, parce que le traitement à la binette, au rotophile des espèces sauvages qu'on va trouver sur les trottoirs, il est beaucoup plus contraignant et important que le traitement phytosanitaire. Donc du coup, on a plus d'espaces qui ont été laissés libres pour la flore, et on a l'impression, c'est vrai, on peut avoir l'impression qu'il y a de plus en plus d'endroits où la flore sauvage vient s'implanter, c'est juste qu'il y a une différence de traitement.
Autre phénomène, hein, apparu ces 10, 15, 20 dernières années, le réchauffement climatique, est-ce que lui, il a eu un impact sur l'évolution, l'apparition ou la disparition de certaines espèces végétales dans la métropole toulousaine?
Plutôt que réchauffement climatique, moi je parle de réchauffement urbain, parce qu'on est sur une métropole qui s'étale, hein,
oui,
qui grandit.
Et dont la population augmente.
Voilà, et puis les matériaux aussi changent, alors même si on est en train d'être à une phase d'inversion, on va dire, mais les matériaux sont de plus en plus chauds. Je pense au bitume, au béton, au métal, au verre, etc., qui sont de plus en plus utilisés. Hein. Si vous regardez les façades des immeubles aujourd'hui, il y a beaucoup de façades de verre, de métal, alors qu'il y avait des façades de briques, par exemple. Hein. Donc on a des matériaux qui sont de plus en plus chauds et une chaleur urbaine qui est plus importante qu'il y a un siècle. Il faut quand même imaginer qu'il y a un siècle, il y avait encore beaucoup de rues qui étaient en terre. pavés, des trottoirs qui n'étaient pas du tout bitumés. Donc, on avait une absorption de la chaleur par le sol qui était présent, qui était plus importante. Donc, on a un réchauffement urbain. Et ce réchauffement urbain qui s'est accéléré ces dernières décennies, il a favorisé grandement toutes les espèces très tolérantes à la fois à la sécheresse estivale, mais aussi à des températures fortes qui peuvent avoir lieu, se trouver en été. Hein. On peut avoir des étés où pendant une semaine, on est à 40 degrés, et donc ça va favoriser, sans surprise, hein, les espèces méditerranéennes et quelques espèces aussi qui viennent de contrées plus lointaines, hein, comme des espèces d'Afrique du Nord ou de zones désertiques, des espèces exotiques, hein, mais aussi des espèces qui sont du territoire au sens large, mais soumise à des contraintes de sécheresse ou de températures plus élevées. Alors c'est un petit peu ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que dans les années qui viennent, sur les trottoirs, l'olivier, le laurier rose, les cistes, les hélianthèmes soient favorisés contre les pâquerettes, les marguerites, voilà, qui sont des espèces qui vont avoir de plus en plus de mal à tenir les chaleurs estivales.
Je vous ai parlé en début d'émission des végétaux, des espèces végétales aquatiques. Et moi, il me semble, quand je me balade au bord de la Garonne, ce qui m'arrive assez souvent, qu'on voit de plus en plus des grands herbiers ou des bancs d'algues, je ne sais pas trop, qui prolifèrent dans la Garonne dès que les beaux jours arrivent, fin du printemps et puis l'été, bien sûr. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est le réchauffement de la température de l'eau de la Garonne? C'est les nitrates qu'on peut trouver dedans?
Oui, alors c'est un ensemble de facteurs, là aussi, hein, mais ce n'est pas un phénomène qui est inévitable ou inexorable, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, une crue permet de rincer un petit peu,
les fonds,
d'éroder le fond, de rincer les berges, enfin de mettre à nu les berges. Mais voilà, oui, c'est dû à un ensemble de facteurs. Hein, c'est dû au fait déjà que la Garonne est en été de plus en plus basse et à l'étiage de plus en plus tôt, c'est-à-dire qu'elle est en eau dormante de plus en plus tôt.
Il y a moins de courant.
Il y a moins de courant, donc la lame d'eau se réchauffe plus vite. Les sols de la Garonne qu'on va trouver à Toulouse, ce sont essentiellement des marnes qui vont emprisonner tout un tas d'éléments nutritifs très riches qui vont permettre une prolifération de plantes. Et cette prolifération de plantes, elle profite d'une eau qui devient dormante, qui est chaude, qui dépasse souvent 25 degrés, hein, 25-26 degrés en été, et de nutriments qui sont très abondants. Et donc, du coup, très logiquement, on a une prolifération de plantes. Et cette prolifération de plantes, elle est même, c'est même une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ça permet de... Enfin, c'est une bonne nouvelle. Ce que je veux dire, c'est que ces plantes, elles ont pour but d'éliminer une partie de ces problèmes. En fait, en proliférant, elles vont rafraîchir la lame d'eau, parce qu'elles vont l'ombrager. Elles vont épurer les sols de leur trop-plein de, ben, par exemple, de nitrates, hein, nitrates, d'autres composés... carbone, etc., parce que beaucoup de matières carbonées arrivent aussi dedans. Et puis, mine de rien, hein, toutes ces espèces, parce qu'on parle souvent dans le public ou dans les médias, on voit souvent le terme d'algues. C'est un terme qui est un petit peu impropre, parce que la plupart du temps, ce sont des plantes à fleurs. Et on ne peut pas réduire à une espèce ou même deux ou trois espèces. On a tout un cortège de plantes aquatiques qui est très diversifié et qui apporte pour toute la faune à la fois de la nourriture et puis surtout des gîtes qui sont très importants, puisque notamment dans la Garonne, aujourd'hui, à Toulouse, on n'a plus que des marnes, il n'y a plus de gravier, de galets dans l'eau. Et s'il n'y avait pas ces plantes aquatiques, il n'y aurait pas notamment de frayères ou d'endroits pour se cacher,
pour les poissons se reproduire et se nourrir.
Exactement.
Pour terminer, est-ce qu'il existe des visites, des balades commentées pour découvrir la flore et les espèces végétales présentes dans la métropole toulousaine? Je parle de balades en ville, mais ça peut être aussi dans les espaces naturels des communes métropolitaines.
Alors, il en existe. Il en existe. Il y a des structures associatives qui organisent ce type de balades, de découvertes. Je pense à Nature en Occitanie, par exemple. Et puis, il y a les structures publiques. Hein. Le muséum organise aussi. Il faut aller sur le site du muséum pour voir ce que le muséum organise en termes de balades, de découvertes, d'ateliers, d'animations liées à la nature. Je pense notamment, il y a pas mal d'animations, d'activités pédagogiques autour de l'île du Ramier, autour de la nature de l'île du Ramier. Et cet été, sur l'île du Ramier, il y a tout un tas d'activités de médiation qui auront lieu pour faire connaître justement, hein, le but de l'aménagement de l'île du Ramier, c'est aussi de rapprocher les gens de la Garonne, mais de les rapprocher d'une Garonne riche de sa biodiversité aussi, hein, parce qu'on est quand même avec une biodiversité assez riche. Donc, il y aura des activités de médiation, de reconnaissance des espèces végétales, des espèces animales, de protection des milieux aussi, hein, comment protéger les milieux, comment prendre soin des milieux et comment bien faire connaître ces milieux pour éviter justement que tout le monde dise « Bon, mais ces algues qui prolifèrent, c'est dégueulasse, ça nous empêche de faire de l'aviron, des jeux d'eau, etc. » Mais pour montrer que tous ces milieux, en fait, ils sont vivants et ils participent à un bon cadre de vie aussi humain, hein, à la proximité de la Garonne.
Et puis, il ne faut pas oublier d'aller visiter l'espace biodiversité du Muséum de Toulouse, auquel vous avez concouru d'ailleurs pour la partie flore.
Oui, il y a un espace biodiversité qui est lié à la forêt, hein, c'est la biodiversité plutôt forestière. Mais dans tous les cas, même au muséum, il y a beaucoup d'animations, d'activités de médiation tournées vers la Garonne, puisque en fait, on se rend compte que le fleuve, on l'a trop souvent et trop longtemps vu comme un exutoire à toutes nos pollutions, à toutes nos rejets. Et en fait, c'est un milieu dont la bonne santé est essentielle à la bonne santé de la ville. Hein. C'est pour ça qu'on voit que la ville aujourd'hui se tourne vers le fleuve. C'est très important de faire comprendre que le fleuve, ce n'est pas uniquement des activités de loisirs et des activités nautiques, ce sont aussi des sites d'observation magnifiques pour la biodiversité. Dans Toulouse, on peut voir des espèces aussi rares, aussi furtives que le martin pêcheur, que le grèbe, que le pic noir, dans les grands peupliers blancs du ramier. Et puis, dans le futur, j'espère qu'on pourra les voir. Hein, on en parlait, la loutre, le castor ou d'autres espèces qui voisineront d'ailleurs avec le ragondin, le rat musqué, campagnol amphibie. Des espèces qui sont un petit peu plus furtives et qui ont surtout besoin, pour être présentes, de ne pas être dérangées.
Oui, d'être tranquilles.
Voilà, d'être tranquilles.
Eh bien, il est temps de conclure cette émission passionnante. Merci beaucoup, Boris Pressec, d'être venu faire cet état des lieux de la flore dans la métropole toulousaine. On a appris beaucoup de choses avec vous et je suis certain que nos auditeurs vont être désormais plus attentifs aux plantes et aux arbres qu'ils croisent lors de leur balade dans la nature et même en ville. Si vous voulez découvrir l'espace biodiversité du Muséum de Toulouse ou en savoir plus sur les balades découvertes qu'il propose dans la métropole toulousaine, je conseille de consulter son site web à www.museum.toulouse-métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.